Les organismes à but non lucratif vivent parfois des moments difficiles. Dans le cas des fédérations, par exemple, on peut penser à des guerres de territoire. Quel serait le problème et quelles seraient les solutions possibles?
Bien, avant de répondre à ta question, Monique, je précise ce qu'est une fédération. C'est un organisme rassemblant et représentant plusieurs associations membres. Les membres d'une fédération, qu'elle soit nationale, provinciale ou régionale, ont choisi ou du moins ont accédé à ce modèle parce qu'il leur est utile. Il y a des avantages à participer pour les organismes locaux. Une réputation crédible, une marque reconnue, un porte-parole puissant, les économies d'échelle, les gains d'efficience, sans oublier de meilleurs résultats et un impact plus important sur la cause. Néanmoins, des membres peuvent résister à certains éléments qui les agacent. Prenons les guerres de territoire.
Il arrive qu'il y a une confusion des rôles et des responsabilités entre les niveaux d'une fédération.
Oui, c'est un fait. Soit qu'il en résulte un chevauchement d'activités ou certaines activités sont laissées pour compte parce qu'il n'est pas clair qui est responsable. Ou les responsables au niveau local s'indignent quand l'échelon supérieur s'empare d'une activité pour laquelle le niveau local se sent responsable ou du moins mieux équipé pour réaliser la tâche. De toute façon, les discussions tournent autour de la protection de son territoire. Au lieu de la mission, il est besoin des membres. La dynamique entre nous et eux est fragile dans une fédération. Pour éviter les guerres de territoire, ou du moins les minimiser, il faut promouvoir le respect mutuel et la confiance, et cela, on le développe en élaborant un consensus sur les objectifs communs, des rôles bien définis et des processus efficaces. Des éléments pour lesquels les partenaires acceptent qu'ils seront tenus imputables. C'est un processus continuel qu'on ne cesse de travailler.
Que faire pour éviter une situation où il y a du bois mort autour de la table?
C'est pas évident. Il devient parfois évident quand on fait un tour de table qu'il n'y a pas assez de sang neuf. On constate qu'un ou des administrateurs ont dépassé leur date de péremption, quoi. Ils n'ont plus d'énergie ou de passion pour le mandat. Ils manquent d'idées. Ils n'assistent presque plus aux réunions où ils ne contribuent que le minimum. Il est possible qu'à la source, c'est un problème de culture. Au fil des années, on s'est entendu qu'il est trop difficile de renouveler le CA, donc on retient les gens qu'on a. Ou on a cherché des nouveaux administrateurs parmi nos amis sans trop se soucier des qualités du candidat. Ou on s'est contenté d'orienter les nouveaux venus de manière informelle, jugeant qu'ils apprendront le métier en participant. La solution évidente est de changer la culture pour éviter la situation à l'avenir. Alors, je vous donne quelques pistes à suivre. Prendre une approche stratégique à la composition du CA, on en a déjà parlé. Cibler délibérément des gens qui ont les qualités dont a besoin l'organisme. Ne recruter que ceux et celles qui seront engagés et qui auront le temps et l'énergie à consacrer à l'organisme. Assurer un processus formel pour identifier, recruter et former les candidats. Et enfin, songer à limiter le nombre de mandats des administrateurs pour forcer l'organisme à se renouveler. Et le bois mort, on l'invite doucement à se retirer.
Avec des gants blancs. Ou une main de fer dans un gant de velours. Il arrive que le CA et la direction ont des perspectives, des points de vue différents sur leurs rôles respectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Il pourrait y avoir plusieurs explications et je vous en cite trois. L'organisme a changé au fil des années et le CA ne s'est pas adapté. On a commencé avec peu de fonds et peu ou pas d'employés et les bénévoles ont tout fait pour faire aller. Mais l'organisme s'est épanoui, on a des employés. Malheureusement, le CA ou quelques administrateurs ont peine à laisser aller le contrôle. Ou l'organisme a subi une crise majeure et le CA s'est vu prendre des décisions opérationnelles et ne sait pas comment changer de mode et remettre le rôle à la direction. Ou l'inverse, la direction a dirigé les décisions du CA qui continue à les approuver sans discussion. Il y a tout simplement des différences philosophiques non résolues entre la direction et des administrateurs clés sur le rôle de chaque partie. C'est possible. De toute façon, la meilleure approche pour résoudre ces problèmes est l'éducation, la discussion et l'évaluation. On implique et le CA et la direction dans un processus exploratoire dans le but de bien saisir, premièrement, les responsabilités légales du CA et quelles tâches peuvent être déléguées. Deuxièmement, les divers rôles que peuvent prendre les administrateurs. Avant tout, ce sont les preneurs de décision, mais ils sont aussi des évaluateurs, des conseillers, parce qu'on leur demande de se prononcer sur certaines questions. ou parfois des exécutants, car il arrive que certains administrateurs auront à mettre en œuvre certaines tâches. Troisièmement, les divers rôles qui peuvent revenir à la direction. Et enfin, le modèle de gouvernance qui serait le plus pertinent à l'organisme.
Alors, si je comprends bien, il faut explorer et clarifier la limite des responsabilités de chaque partie.
Absolument. Et il faudrait s'entendre sur un modèle de gouvernance, assurer que les meilleures pratiques de gestion, les structures, les politiques, les procédures sont en place, assurer que la meilleure personne occupe le poste de DG et que sa performance est satisfaisante, et évaluer les pratiques du CA pour identifier les occasions pour s'améliorer.
Et si on se retrouve sur un conseil d'administration qui est dominé par une clique, on fait quoi?
Il arrive que les administrateurs qui partagent une perspective ou une façon de penser créent des alliances officielles ou informelles et votent en bloc sur certaines questions pour assurer la victoire, quoi. Mais ceci peut créer des conflits entre les administrateurs et endommager la dynamique au CA ou mener à une perte d'intérêt de la part des administrateurs qui se sentent impuissants. C'est encore plus sérieux si l'intention du bloc est néfaste, par exemple, tenter de se saisir du CA. Le conflit au CA risque de s'étendre à l'extérieur pour attirer de l'appui parmi les employés et même les partenaires et les clients. Une présidence efficace est essentielle pour contrer cette menace. La présidence doit prendre l'initiative pour assurer un esprit de groupe et établir un processus pour la résolution des conflits s'il n'y en a pas déjà. Elle doit assurer que tous les membres du CA aient l'occasion de se prononcer en discussion et qu'ils aient un vote égal. Mais c'est entendu, dans une démocratie, la majorité l'emporte. Le CA peut établir des groupes de travail pour gérer certaines questions, pour faire en sorte que le pouvoir soit mieux distribué parmi les membres du CA. Mais au fond, il ne faut absolument pas ignorer le problème. Même si c'est inconfortable, et c'est souvent le cas, il faut exposer le problème et en parler. En bout de ligne, on cherche à créer un milieu où l'on se sent à l'aise d'aborder les questions délicates et trouver des solutions.
Merci beaucoup, Hélène Cameron, pour avoir préparé cette formation qui est offerte aux organismes membres de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.
Ça me fait plaisir, Monique. J'invite nos auditeurs à consulter la liste des ressources affichées sur le site pour explorer davantage toutes ces questions.